C'est à la chronique Transcontinent Queer.
Transcontinent Queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
Alors, c'est au tour de l'Alberta à faire ce pas en avant contre les personnes queer. Et on se pose des questions, là, savoir où est-ce que ça va aller tout ça. Et on va en discuter avec nos participants, participantes à notre Transcontinent Queer. Vous le savez, c'est notre discussion mensuelle sur les enjeux et réalités queer d'un bout à l'autre du Canada. Donc, on reçoit, je vais les présenter, Roseva Ford-Jenkins, qui est à Edmonton. On reçoit aussi Dan Robichaud, qui est à Clare, en Nouvelle-Écosse, et Arnaud Baudry, qui est à Toronto, et son C, c'est en Ontario. Salut, vous deux, vous trois!
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors justement, donc c'est l'Alberta et sa première ministre Danielle Smith qui décide de s'attaquer aux minorités trans. Roseva, je pense que ça se passe dans ta province. Peux-tu nous résumer un peu ce qu'elle propose de faire?
Oui, donc malheureusement, c'est très, très proche pour moi en tant que quelqu'un qui vit en Alberta. Donc, je dirais, tu sais, elle a fait, Danielle Smith, elle a fait 10 propositions, puis je dirais dans 3 catégories d'éducation, de santé et de sport. Donc, je vais commencer avec éducation. Tu sais, on peut voir qu'elle s'est inspirée sur la Saskatchewan, des lois qui ont changé là sur le dévoilement des pronoms et que ça se peut pas, les élèves peuvent pas changer leurs pronoms à l'école sans avoir le consentement de leurs parents. Donc, tu sais, on peut voir comment elle s'est inspirée de la Saskatchewan, mais elle a dit, ben, je vais aller même plus grand dans mon approche et je vais vraiment avoir beaucoup de, ajouter beaucoup plus. Alors, elle a aussi parlé dans l'éducation dans les écoles qu'il n'y aurait pas d'éducation sexuelle sans le consentement des parents. Donc, comme ça l'est maintenant avec l'éducation sexuelle, c'est que les parents peuvent dire non que leurs élèves, que leurs enfants ne sont pas éduqués dans l'éducation sexuelle. Mais maintenant, il faudrait avoir le consentement des parents pour enseigner l'éducation sexuelle à l'école. Alors ça, c'est pour l'éducation. Pour le domaine de santé, c'est qu'il n'y aurait pas de thérapie d'hormones pour les moins de 18 ans.
Juste en passant, c'est tellement ridicule parce que rendu à cet âge-là, les thérapies, les retards, ce qu'on appelle les bloqueurs d'hormones, là, ça ne sert plus à rien là, parce qu'ils ont pas seulement, sont devenus adultes, là.
Ben oui, exactement. En anglais, on entend puberty blockers. Alors, c'est vraiment pour la puberté de bloquer ça. Alors, si tu dis, oh, une fois que tu as 18 ans, là, tu peux prendre des médicaments pour bloquer la puberté. Ben, la puberté s'arrête après 18 ans, on comprend. Alors, ça n'a vraiment aucun sens, aucun logique, disons. Puis, elle a aussi parlé de, du sport, donc que les athlètes trans ne pourraient pas être dans les mêmes catégories. Donc, les femmes trans ne peuvent pas être dans les mêmes catégories sportives que les femmes.
Wow! Ça va loin, ça va loin. Mais elle suit quand même l'exemple, parce que c'est pas la première province là, qui fait ce genre de déclaration ou de loi ou de proposition de loi anti-trans. Ça a commencé au Nouveau-Brunswick, ça, Dan.
Ah, là, il faut que j'allume le micro. Effectivement, le Nouveau-Brunswick, avec sa fameuse politique 713, a vraiment fait, je pense que c'est un gros recul. Un gros recul. Et, comme Marie-Ève le disait, c'est important de commencer la démarche tôt, avant la puberté. En écoutant ce qu'on dit ce soir, je me pose la question, qu'est-ce que Samuel Leblanc, il y a une étoile, le star du documentaire de Julien Cadieux, je me demande qu'est-ce que lui aurait à dire de tout ça, parce qu'il a quand même commencé sa transition à un âge assez jeune, et même sa mère, dans le documentaire, avoue que si seulement elle aurait compris plus tôt, pour agir plus tôt.
Oui. Je voudrais qu'on aille en Saskatchewan parce que les autres, ils vont loin. Je pense qu'ils veulent invoquer la clause dérogatoire de la Constitution canadienne pour maintenir en place leur politique anti-trans là, dans les écoles. Roseva, je pense que c'est toi qui suis ça plus que les autres.
Oui, donc juste pour dire, faire la distinction qu'en Alberta, c'est pas une loi qui a été acceptée encore, donc c'est quelque chose qui a été proposé, mais ça n'a pas été accepté. En Saskatchewan, de ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui a été accepté et qu'on veut, que la Saskatchewan veut, c'est ça, invoquer cette clause pour que ça puisse passer et maintenir, de ce que je comprends.
Et on va aller en Ontario parce que Mme Smith faisait une tournée en Ontario, notamment à Ottawa, et elle a rencontré Doug Ford, son homologue albertain. Et le bureau de Doug Ford a pris la peine d'avertir les médias qu'il n'allait, avant même la rencontre, qu'il n'allait pas suivre les politiques de Daniel Smith sur cette question. Arnaud, comment on explique ça?
Peut-être qu'il cherche à se préserver pour le moment. Moi, j'ai quand même, en me basant sur ce qui a été présenté par le gouvernement Ford, ils ont l'air quand même de préparer quelque chose. Ils avaient fait une annonce il y a quelques mois pour préparer pour des lois qui seraient assez semblables par rapport à l'obligation d'obtenir le consentement des parents pour que les enfants utilisent un nom ou des pronoms différents à l'école. Donc, moi, il me semble quand même assez aligné avec ce que fait le gouvernement Smith. Donc, c'est une annonce intéressante. Moi, je suis curieux d'en savoir plus sur ce qu'il prépare exactement. Mais oui, je les vois quand même assez alignés.
Oui. Il y a quand même aussi, là, je vous lance tout le monde là-dessus, il y a Pierre Poilievre qui s'est fait poser la question suite à sa rencontre avec Daniel Smith à Ottawa. Et ben, finalement, il s'est quand même avancé. Il est aussi là, pour la permission parentale, pour changer de pronom et changer de nom. Et il est aussi, je pense qu'il est aussi aligné avec Mme Smith là, là-dessus, sur les retardateurs ou les produits qui vont retarder la puberté. Ça va se ramasser sur la scène fédérale, ça. Je vois le peu Arnaud. Ah, Dan, vas-y, oui.
Je pense que ça se compare parfaitement avec la division entre la gauche et la droite qu'on voit aux États-Unis, surtout au sujet de l'avortement. Il y a quelque chose de semblable qui se fait ici au Canada entre les forces bleues, les forces rouges et l'Est et l'Ouest. Mais on dirait qu'on est plus focusé sur la communauté gay et trans. Mais c'est certain que de passer des politiques comme ça, c'est dévastateur pour ces individus-là et les communautés.
Mais on a vu récemment, je vous lance ça aussi à nouveau parce que ça rentre dans l'air du temps, les politiciens. Ben, oh Arnaud, je voyais que tu veux répondre à ça pour Pierre Poilievre.
Non, pas spécifiquement, mais moi je me disais, si Ford veut attendre pour collecter plus d'informations basées sur la science, ben, ça serait une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il n'a rien annoncé, mais bon, on peut
Ouais.
espérer.
Il y a quand même CBC qui semble, d'ailleurs CSIS, ou pardon, en français, je ne me rappelle plus, c'est l'agence de sécurité là, qui a remplacé la GRC. C'est fou, j'ai vu l'article en anglais. Mais l'agence donc de sécurité du Canada qui s'inquiète de la montée du mouvement anti-genre, qu'ils appellent, ou anti-trans, suite à tous ces débats-là. On a vu quand même un accident tragique à Waterloo, en Ontario. Est-ce qu'on doit craindre la montée de ce mouvement-là? Je vais lancer. Vas-y, oui, Roséva.
Oui, moi je dirais oui, c'est quelque chose que tu sais, dans notre communauté, on sait qu'on a tout le temps subi. Je pense que quelqu'un qui fait partie de la communauté, on sait que la violence, ça fait partie de nos vies, malheureusement. Les personnes qu'on voit qui ne conforment pas au genre, et le plus que les personnes ne conforment pas au genre, tu sais, je pense que c'est vraiment de la mécompréhension, les personnes qui comprennent pas, oh, moi, tu sais, quelqu'un qui a dans leurs idées voit juste hommes et femmes, et voit quelqu'un qui ne rentre pas dans leurs idées de c'est quoi hommes et femmes, et au lieu d'être curieux, puis se dire, oh, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne, on voit souvent que la réaction, c'est l'intolérance, c'est la violence, et je suis certaine avec, tu sais, on voit que c'est les lois proposées, ça donne la légitimité à ces personnes qui réagissent avec la violence et la haine. Et c'est les politiciens qui légitimisent puis disent c'est correct de ne pas comprendre et c'est correct de réagir de façon violente.
J'ai vu que Dante a levé la main, vas-y.
Ben oui, effectivement, moi, ça que je vois dans ça, c'est quand ça devient politique et quand ça vient la campagne politique de juste être de l'attaque constante, je crois que ça envoie vraiment un message que même si on a des droits de minoritaires protégés, dans le fond, ils ne seront point respectés. Puis je trouve que c'est dangereux et alarmant que ça soit des campagnes politiques à l'attaque de gens. Déjà, c'est déplorable que c'est des campagnes politiques assez personnelles entre politiciens, mais que ce soit contre des segments minoritaires de la communauté comme ça, c'est vraiment à dire que les droits minoritaires ne vont point être respectés dans le futur, peut-être même dans le présent.
Et je te laisse la parole, Arnaud, vas-y.
Moi, cette annonce du service de renseignement de sécurité, elle ne m'a pas vraiment surprise, en fait, quand on voit comment tous les mouvements extrémistes, les mouvements dits anti-genre, s'organisent depuis toujours, en fait, mais là, spécifiquement depuis plusieurs mois, en organisant des manifestations, etc., et vraiment en faisant des démonstrations de haine et de violence. C'est pas une surprise de voir que ce risque soit identifié. Il existe, il est là, et on a toujours été confronté à ça, et on doit vivre avec. Et en fait, ça vise à nous faire taire, à nous effacer. Encore une fois, effacer nos vies, effacer nos identités. Alors, moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, ben, restons fermes dans nos fiertés, dans qui nous sommes. Continuons à nous célébrer et aussi à communiquer, à démystifier et à dialoguer en fait avec ces personnes qui visiblement sont motivées par des incompréhensions en fait, par de la haine. Je pense qu'on a besoin de plus de dialogue, on a besoin de plus de sensibilisation pour réhumaniser, parce que les personnes de nos communautés ont continuent à être déshumanisées. On demande pas grand-chose au final, on demande le respect, d'être vu comme des personnes. On demande pas à être aimé par les personnes de tous les spectres politiques, simplement d'être respecté dans notre intégrité physique et dans notre humanité, c'est tout.
Et je voudrais juste lancer une dernière petite question là-dessus. Au-delà de la violence qu'on pourrait soulever et de l'intimidation que soulève Arnaud, puis merci de m'avoir corrigé sur le SCRS. Alors, au-delà de tout ça, il y a pour les jeunes personnes qui vivent la dysphorie de genre, puis là, on va parler des plus jeunes, mais même les plus vieilles personnes aussi vivent ça. Qu'est-ce que ces personnes-là, comment elles vont vivre ça? Parce que là, on envoie vraiment un message haineux, là. Ah, je vais. Vas-y.
Oui, ben, tu sais, nous autres en Alberta, au moins, il y a des manifestations qui s'organisent et on voit, tu sais, c'est vraiment des jeunes personnes qui prennent la charge, qui se manifestent. Et tu sais, je suis vraiment contente que quand on voit ceci, on voit les jeunes qui sont là, mais aussi, tu sais, je pense aux jeunes qui ne peuvent pas être là. Tu sais, peut-être qu'ils veulent être là, mais c'est pas, tu sais, quelque chose qu'ils ont le droit de faire. C'est pas sécuritaire pour eux de faire. Donc, je pense que c'est vraiment, t'sais, pour ces jeunes personnes-là, leur aider avec les ressources. Moi, justement, à Edmonton, on a un organisme auquel les jeunes qui cherchent pour faire de la compression de leur poitrine, ils peuvent y aller. Il y a un échange pour ces vêtements. Alors, t'sais, j'aide ces jeunes-là à trouver des places où est-ce qu'ils peuvent trouver des produits qui vont leur aider avec leur dysphorie de genre. Alors, t'sais, de vraiment être là, soutenir les jeunes. Peut-être qu'il va y avoir des règlements sur comment qu'on peut appeler les jeunes plus tard, mais au moins pour l'instant, on sait qu'en Alberta, les lois sont pas passées encore. Et on voit dans la recherche pour la santé mentale de simplement quand un jeune à des personnes, des adultes dans leur vie qui leur utilisent le bon nom, le bon pronom pour eux, ça baisse le taux de suicidalité jusqu'à 50%. Alors vraiment, comme adulte qui est autour des jeunes, c'est de leur supporter, de dire, tu sais, je suis avec toi, je suis quelqu'un avec qui tu es en sécurité. Ceci peut vraiment tout faire la différence pour un jeune. Alors c'est ça que je dirais.
Un autre petit tour de table, peut-être Arnaud, sur cette question-là, les conséquences que tout ça, ce débat-là, peuvent avoir sur les personnes qui vivent là, la dysphorie de genre.
Ben, clairement, les conséquences sont désastreuses. Déjà, on vit dans une société qui fait qu'on grandit en se disant qu'on n'est pas normal et qu'il y a des choses qui ne vont pas avec nous. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en mettant en place des lois qui vont rendre les choses encore plus difficiles pour les personnes trans ou de genre non conforme, ça ne va pas améliorer les choses, clairement. Et en fait, c'est inquiétant dans ce contexte où il y a les services secrets qui nous disent qu'il y a des risques réels de violence extrême. Et en même temps, il y a des gouvernements qui vont d'une certaine manière, directement ou indirectement, valider une approche qui est anti-LGBT, une approche en fait qui va contribuer à venir alimenter d'une certaine manière la violence. Donc, moi, je trouve ça assez inquiétant. Et effectivement, en termes de santé mentale, quand l'argument c'est de dire que il faut laisser les jeunes décider une fois qu'elles sont adultes. Déjà, comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas de sens parce que par rapport au bloqueur de puberté, ben, c'est trop tard. Il y a des possibilités pour appuyer les jeunes qui ne sont même pas des changements permanents, en fait. Et en fait, les bloqueurs de puberté, ça en fait partie. Changer son nom, changer ses pronoms. Si le jeune réalise après quelque temps que Yael est mieux dans une autre identité, ben, Yael peut changer son nom et son prénom. Je veux dire, ce n'est pas des choses qui sont fondamentalement qu'on peut pas revenir en arrière, quoi. Ça, c'est une des peurs qui est exprimée aussi, c'est que ça serait des changements permanents. Mais en fait, non, il y a des solutions pour soutenir les jeunes et pour diminuer l'impact sur la santé mentale et le risque de suicidalité. Donc je pense qu'il faut plutôt aller vers ces solutions-là.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Transcontinent queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre.
Ben, on va passer à un autre sujet. Le 26 février, c'est la journée du chant d'Aïrose contre l'intimidation. Dan, c'est une initiative qui part de ton coin du pays. Peux-tu un peu nous raconter la genèse de ce chant d'Aïrose?
Bien, la campagne de chant d'Aïrose, c'est vrai que ses origines sont en Nouvelle-Écosse. C'était des jeunes du Central King's Rural High School dans la vallée d'Annapolis qui ont distribué des chants d'Aïrose pour soutenir un élève qui était victime d'intimidation parce qu'il avait ou elle avait porté ou il avait, pardon, porté un chant d'Aïrose à l'école un jour. Depuis ça, c'est devenu un symbole mondial contre l'intimidation. Ça se célèbre au Canada, ça se célèbre aussi en Nouvelle-Zélande. Ce que je trouve intéressant parce que ici à Nouvelle-Écosse, on se compare souvent avec la Nouvelle-Zélande en tant que la géographie et la topographie, mais c'est intéressant que le culturel se rejoint aussi. Et ça a commencé, je pense, en 2007, 2008, 2007, je pense. Et c'était ça à la base, c'était pour, je pense que ça allait juste être une journée dans une école secondaire, et puis maintenant c'est un brand mondial.
Roséva, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus?
Oui, donc je pense que ce qui est vraiment intéressant de quand on pense de l'histoire origine comparée à maintenant, c'est que c'était vraiment quelque chose que c'était lié dans l'homophobie. Donc, c'était que ce jeune, quand il a porté le chandail rose, les autres jeunes disaient, oh, t'es un garçon qui porte du rose, t'es gay. Puis c'est ça qui était c'est les commentaires qui étaient lancés aux jeunes. Et quand alors c'était commencé avec deux jeunes, Travis Price, puis l'autre personne aussi, qu'eux autres qui étaient des élèves qui étaient en 12e année, donc qui étaient les plus vieux d'école, puis ils voyaient que ceci arrivait à un jeune. Quelqu'un qui était plus jeune dans, disons, comme la 7e année. Donc, c'est des garçons plus vieux qui voyaient ce qui arrivait. Puis, ils ont dit à l'école, on veut faire cette journée pour soutenir cet élève. Et l'école a dit, s'il y a quelque chose qui arrive, si ça va mal, s'il y a des batailles, s'il y a des conséquences négatives, on va vous expulser. Donc, c'était vraiment ces deux jeunes, c'est les plus vieux dans l'école qui ont vraiment dit, ben, c'est, L'école n'est pas sur notre bord, il peut avoir des conséquences, mais on veut le faire quand même parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, je pense que c'est deux aspects qu'on perd beaucoup quand on parle de la journée maintenant. Si les personnes disent, oh, contre l'intimidation en général. Oui, l'intimidation en général, c'est quelque chose qu'on devrait en parler, mais l'intimidation homophobe, c'est vraiment quelque chose de spécifique que je trouve qu'on a perdu. Et aussi le fait que ces jeunes qui ont commencé cette journée n'avaient pas le support de leurs écoles. Puis maintenant, les écoles vont dire, oh oui, voici cette journée, on célèbre cette journée à notre école. Mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes quand ils vont contre l'institution de l'école, puis ils font quelque chose qu'ils savent que l'école ne va pas être avec eux, mais qu'ils font quand même parce qu'ils savent que c'est la bonne chose. On ne parle pas de tu sais, comment les institutions sont des fois, l'homophobie, c'est aussi partie de ces institutions-là.
Il y a 7 jeunes sur 10 qui disent avoir été victimes d'intimidation selon Statistique Canada. Dans vos régions, ça se traduit comment pour les personnes queer? Je pense que je lance la balle à Arnaud.
Bon, pour les concernant les jeunes dans les écoles, nous on entend beaucoup de témoignages de jeunes dans le cadre d'un projet sur lequel on travaille depuis presque un an maintenant, qui est le réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+. On a organisé des séances de consultation et dans ces séances, il y avait des jeunes qui nous partageaient des histoires vraiment extrêmement pénibles à entendre. Par rapport à comment elles ont été la cible d'intimidation à cause de leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Mais c'est pas nouveau, mais on voit ça continue. Et je pense que l'approche, souvent, c'est de découper. Par exemple, là, en ce moment, le ministère de l'Éducation a mis en avant des priorités spécifiques qui concernent certains groupes de la population. Et puis, on nous a dit clairement, ben, en ce moment, les personnes LGBT ne font pas partie de ces groupes prioritaires, on va dire, pour développer des programmes spéciaux pour venir adresser les enjeux dans les écoles. Et je pense que c'est un peu dommage, en fait. Enfin, c'est plus que dommage, c'est dramatique. Ça manque, en fait, d'une approche réellement intersectionnelle pour dire que l'intimidation, ça concerne tout le monde. Et il y a des enjeux particuliers qui concernent les jeunes de nos communautés, les jeunes de la diversité affective, sexuelle et de genre, et qu'il y a besoin d'appui spécifique pour ces jeunes. Et je pense qu'avoir une approche intersectionnelle, ça permettrait vraiment de mettre en avant l'idée que ça concerne vraiment tout le monde. On ne peut pas prioriser ces enjeux. Tous les jeunes sont importants, tous les jeunes ont le droit de suivre, de vivre en sécurité et de suivre leurs études de manière sécuritaire avec l'appui dont ils ont besoin pour pouvoir, favoriser leur succès à l'école.
Dan Robichaud.
Moi, je suis d'accord avec tout ce que Roosevelt et Arnaud disent. Je pense qu'il faut pas oublier qu'on parle d'un enjeu qui peut doubler le taux de suicide chez les jeunes. Mon Dieu, c'est pas une question de est-ce que cette démographie-là a besoin d'appui. L'appui est nécessaire. Point final. Surtout dans les écoles, à cet âge-là. Et n'oublions pas qu'il y a des hommes hétérosexuels efféminés qui se font intimider eux aussi. Et souvent, je me pose la question, lequel est vraiment le pire?
Est-ce que nos gouvernements font assez pour combattre ce fléau de l'intimidation, notamment chez nos communautés? Je vois Roseva qui a allumé son micro, vas-y.
Ben oui, justement, tu sais, je pense à quand Arnaud avait parlé avant de, tu sais, la sensibilisation, c'est ça qui est vraiment nécessaire. Et justement, avec les politiques que Danielle Smith a parlé, une de ses politiques sur l'éducation, c'était que les groupes qui parlent de l'identité de genre n'auraient pas le droit de présenter dans les écoles. Sans qu'avoir le gouvernement albertain qui approuverait ce qui est dit. Et moi, justement, en quelqu'un qui travaille pour le Comité franco-queer de l'Ouest, et un de nos enjeux, c'est justement faire de la sensibilisation dans les écoles. On n'a jamais été consulté sur ce que une approbation de le gouvernement, de quoi ça, comment ça se déroulerait. Alors, tu sais, nous autres aussi, on n'a aucune idée de ce comment, c'est quoi le processus qui est décrit. Puis, c'est ça. Alors, tu sais, sans la sensibilisation dans les écoles, où est-ce que on peut en parler, tu sais, avec les profs? Parce que quand on parle de, tu sais, l'intimidation dans les écoles, on veut parler d'une journée contre l'intimidation, ben il faut parler non juste aux jeunes, mais aussi à l'école telle quelle. Qu'est-ce que les écoles font? Qu'est-ce que c'est le conseil scolaire et les entités plus larges qui encadrent les écoles? Qu'est-ce qu'ils font contre l'intimidation? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller beaucoup plus profond sur la structure et non seulement le, tu sais, un à un avec les élèves. Alors, surtout quand on voit la structure, par exemple, de le gouvernement albertain qui, eux autres, c'est, on pourrait dire, lancer une campagne d'intimidation contre les jeunes trans. Tu sais, ça donne vraiment pas un bon message sur comment on peut protéger les jeunes quand la structure du gouvernement n'est pas sur leur côté.
Je peux donner 15 secondes à chacun des deux, ou si peut-être à 30 secondes, mais on arrive à la fin. Vas-y tout de suite, oui, Dan.
Moi, ce que je vois là, surtout quand c'est l'appui des gouvernements, c'est de l'intimidation du gouvernement, certains, mais est-ce que ça ne devient pas complotiste en lui-même? Parce que c'est pas juste l'intimidation, c'est l'intimidation avec la bénédiction du gouvernement.
Oh là là. Les amis, on va devoir arrêter ici. C'était Rose-Eva Falk-Jenkins à Edmonton, Dan Robichaud à Clare en Nouvelle-Écosse et Arnaud Baudry à Toronto. Merci tous les trois d'avoir participé à Transcontinent Queer pour ce mois de février. On se reparle le mois prochain.